Il est 14h et des patates sur Syllab et vous vous apprêtez à écouter une émission produite en 2021.
Il était une fois une émission. Elle était musicale, elle était participative. Elle s'appelait Le sens du son. À chaque épisode, un mot, un thème qui évoque une pluralité de sens, une diversité de sons. À chaque épisode, ses participants et participantes proposeront une musique accompagnée d'une parole qui racontera un peu de musique, mais aussi un peu de soi. Allez, il est l'heure de reprendre. Bienvenue dans le sens du son.
Ce qu'il faut savoir par rapport à ce thème, c'est que ça fait des mois que j'y pense, que j'y réfléchis, que je me dis qu'il serait super, que je vois très bien à qui je pourrais le proposer, et qu'il y aurait plein de choses à en dire. Ce thème, c'est lutte, avec une hésitation sur si c'est du singulier ou du pluriel. Alors je vais faire un petit peu mon façade, mais la lutte, on est pas mal à la vivre au jour le jour, quoi. Et enfin, je parle de la lutte autant au sens des gens qui vont dans la rue pour crier des trucs, que les gens qui luttent contre l'envie de prendre les clés qu'ils ont dans la poche pour en faire un point américain. Ou la lutte pour la reconnaissance, par exemple. L'impression de devoir trimer plus que les autres et plus que nécessaire pour des trucs qui sont genre un peu le minimum. Lutter pour se faire entendre, pour exister. Lutter contre ce chat qui refuse obstinément de descendre devant votre écran. Enfin, je sais pas, lutte, que ça soit dans des façons très sérieuses, austères, vitales ou superficielles et banales, c'est un truc qui infuse pas mal, quoi. Et quand on vient à la musique, bah, des musiques qui nous donnent ce qu'il faut pour pouvoir lutter, que ce soit de l'entrain, du courage, une impulsion, il y en a pas mal. Des chansons qui parlent de lutte en particulier, il y en a également. Enfin bref, je me suis dit qu'il y avait là matière à faire un chouette épisode, et de cela, bah, je vais vous laisser seul juge. Vous allez entendre en premier les mots de Frix, lus par Upsi, après quoi nous écouterons Ludvay, Aurore Quoi, Oriane et Marion.
Quand j'ai reçu le mot lutte pour ma participation au podcast Le Sens du Son, j'ai ri jaune. Un bon gros rire sardonique et plein d'amertume. Parce que cette proposition de participation, elle est arrivée pile au moment où j'en avais vraiment, vraiment plein le cul de la lutte, justement. Je suis punk depuis que j'ai 13 ans. Je milite dans les milieux antifa, queer, antivalidiste, anarchiste, depuis à peu près aussi longtemps. Une dizaine d'années, quoi. Il y a un peu plus de 5 ans, j'ai déménagé dans une ville où le milieu militant est quasi inexistant. Un bastion de faf et de rouge-brun où les tentatives d'occupation de l'espace public par les militants de gauche sont, au mieux, naïves. J'ai alors transformé mon activisme de terrain en militantisme virtuel, en allant dans des cercles féministes et queer de Twitter et de Facebook, et en remontant à Paris ou à Caen quelquefois. Et c'était cool, ça m'a construit sur beaucoup de sujets, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Mais depuis quelques temps, je ressens une fatigue profonde et tenace vis-à-vis de ce militantisme. Je suis folle, je suis handicapée, et j'ai l'impression de ramer en permanence à contre-courant, même dans les milieux d'extrême-gauche, de n'avoir ma place nulle part. Dans ce rejet constant et cette inaccessibilité a poussé mon nihilisme. Aujourd'hui, je crois en rien. C'est ce que chante Yves Cécinas des Sales Majestés dans le morceau que j'ai choisi et qui résonne pas mal pour moi en 2021. Je ne crois plus au féminisme, depuis que les femmes avec qui j'ai milité pendant des années ont décidé de nous cracher à la gueule quand on a évoqué nos droits reproductifs. Je crois plus aux luttes queer, depuis que j'ai vu que, in real life comme in virtual life, on passe plus de temps à se tirer dans les pattes qu'à construire des espaces sains pour nos jeunes et à réclamer des droits. Si, allez, je crois à l'antipsie, à la paire aidance, à l'entraide entre folles et handicapées. Mais là encore, des inimitiés personnelles viennent pourrir des projets militants. On en vient à rejeter en masse des personnes vulnérables pour des conneries. On a tellement de fuel en nous qu'on en vient à le jeter sur nos adelphes plutôt que sur les personnes qui nous oppressent. Et ça amène à des situations dramatiques, des situations terribles. J'ai arrêté d'espérer dans une société meilleure, même si mes convictions intimes ne changent pas. Je laisse cette tâche à d'autres. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de protéger au maximum les gens autour de moi, les gens vulnérables, les exclus de la société, en regardant le monde brûler au loin. Aujourd'hui, je crois en rien. Finalement, c'est très bien. Je crois en rien.
J'ai cru en l'anarchie, en l'ordre sans le pouvoir, mais j'étais bien le seul, oui, vraiment à y croire. J'ai fait de la politique, je voulais changer le monde, mais à force de mentir, j'avais envie de vomir. Je suis devenu écolo pour sauver les forêts, mais j'ai très vite compris que tout le monde s'en foutait, que les gens préféraient rouler dans leur bagnole, et tant pis pour leurs mômes s'ils bouffent du pétrole. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien, je crois en rien. J'ai cru en la patrie, mais j'ai très vite compris que j'avais pas mon pays, mais une bande de pourris. Oui j'ai cru en l'argent, mais faut pas de scrupules. Et moi j'en avais trop pour devenir une crapule. Je me suis mis à croire, j'ai cru en la religion, mais j'ai très vite compris que c'était un piège à con. Beaucoup trop de sermons de gens qui parlent en ton nom, beaucoup d'intolérants, jamais de compassion. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui je crois en rien, finalement c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien, je crois en rien. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça ne rapporte plus de blé. J'ai cru en la défonce, je suis allé en enfer. J'aime beaucoup trop la vie, je suis revenu sur terre. Oui, j'ai cru en l'amour, celui qui dure toujours, mais les plaisirs d'amour, hélas, ne durent qu'un jour. J'ai cru en l'amitié, mais j'avais pas compris qu'on est toujours trahi, oui, que par ses amis. Aujourd'hui, je crois en rien, finalement, c'est très bien. Je crois en rien, je crois en rien. Aujourd'hui, je crois en rien.
Quand je pense lutte, je pense combat, je pense détermination, je pense aux victoires et aux défaites. La piste musicale qui me parle le plus dans cette idée-là, c'est Turbo Killer de Carpenter Brut. Elle est violente, elle est sombre, mais elle me laisse un goût de victoire amère, mais de victoire. Le genre de victoire que j'espère tout de même qu'on aura. Quand je dis « on », je parle bien sûr des personnes minorisées, que ce soit dans les minorités de genre, les minorités raciales ou les minorités sexuelles. En fait, après quelques années de lutte, j'ai l'impression d'être déjà amer. C'est peut-être bête, mais il est parfois difficile de se rendre compte des avancées. J'ai vite l'impression de stagner, que rien ne bouge. Parfois que rien ne bougera jamais. Et puis, de temps en temps, on se rend compte que des gens se mobilisent, parfois même des entreprises prennent position pour nos droits. Souvent pour de mauvaises raisons. Parfois pour des raisons plus honnêtes. Et dans ce genre de moment, je me dis « Ok, t'as fait ce que t'avais à faire, regarde, des gens s'en chargent, cette fois-ci tu peux rester derrière et regarder de loin. » Mais dès que je regarde en arrière et que je vois ce que ça a coûté, la victoire, elle est amère. Et elle est incomplète. Il va encore falloir lutter. Alors je relance Turbo Killer.
Pour moi, ce thème du sens du son était parfait. La lutte. Quelque chose qui coule dans mes veines, je dirais bien littéralement, mais ça reste une métaphore. Alors, je savais parfaitement de quoi j'allais parler directement. De ma famille. De mon arrière-grand-père espagnol, communiste, qui a dû fuir l'Espagne sans dire au revoir à sa mère, à son père, à sa sœur et à ses frères, qui restèrent dans l'autre camp. Sans partir avec mon arrière-grand-mère, ni ma grand-mère, car c'était trop dangereux, qui fut enfermée dans des camps de concentration dans le sud de la France réservés aux réfugiés politiques espagnols fuyant le franquisme, fuyant la mort. De mon arrière-grand-mère, partant des années après quand sa fille fut un peu plus âgée, craignant d'aller en prison, de mourir, ou pire encore en passant la frontière. De ma grand-mère, grandissant dans un pays dont elle ne connaissait pas la langue et dont elle fut l'objet de moqueries, comme tant d'immigrés, de réfugiés, aujourd'hui encore. De mon grand-père, syndicaliste. De ma mère, syndicaliste également. Je savais même directement de quelle chanson j'allais parler. Une chanson espagnole à la base, mais qui gagna ses lettres de noblesse, de lutte et de revendication au Mexique. Rien à voir avec la guerre civile espagnole, mais une autre guerre civile, utilisant le même langage. J'allais parler de la cucaracha, dont mes premiers souvenirs dans ma mémoire sont ceux de ma grand-mère me la chantant. Cucaracha donc, qui signifie cafard, blatz, et qui fut chanté lors de la révolution mexicaine contre l'empereur Maximilien. Et puis, l'actualité me rattrapa. Après avoir choisi mon angle d'attaque, mon plan et compagnie, j'entendis une chanson, une simple chanson qui me donna envie d'en parler. Bande organisée, remix version féminine. Une chanson est le nom d'un collectif de rappeuses marseillaises qui, basiquement, ne regrette qu'une chose. L'oubli des femmes dans les sphères musicales. Il serait trop simple de parler de l'oubli des femmes dans le milieu rap et hip-hop, tellement il est notoire et récurrent dans les autres styles musicaux également. Le sexisme et la misogynie ont encore de grands jours devant eux, n'est-ce pas? Eh bien, pour répondre au collectif marseillais de rappeurs bande organisée, dont le fameux Jules fait partie, et qui s'est créé justement pour parler de la scène de la ville de la Canebière, et dont il manque magiquement des femmes, plusieurs rappeuses ont décidé de répondre, gentiment, en faisant leur propre version de la bande organisée, version femme, justement, avec uniquement des rappeuses de la cité phocéenne. Et puis, l'actualité me rattrapa, encore une fois. Et l'ancien président des États-Unis d'Amérique refusa de laisser sa place à son concurrent, pourtant élu, Joe Robinette Biden. Et une insurrection s'organisa sous son impulsion. Des fascistes, des nazis, des citoyens votant pour Donald Trump s'insurgèrent et entrèrent dans le capital du district de Columbia, presque invités par les forces de sécurité de ce bâtiment politique américain. Honnêtement, ceci me fit peur. Peur pour la démocratie américaine, mais aussi pour la nôtre, en France. Car rien n'exclut que ceci se passera outre-Atlantique. Que des mouvements racistes, haineux, faisant leurs lois, et fassent ce que bon leur semble dans les bâtiments garants de notre démocratie. Certes, plein d'imperfections, mais tout de même bien plus agréable sans eux qu'avec eux. Car oui, le paradoxe de la tolérance, c'est de refuser de tolérer l'intolérance. Et c'est un combat de tous les instants de faire valoir nos droits, notre démocratie, et de vouloir l'améliorer. C'est une lutte de chaque instant de ne pas la laisser sombrer dans une parodie raciste, misogyne, homophobe et validiste, plus qu'elle ne l'est déjà. C'est un combat de chaque instant de vouloir lutter pour notre droit de vivre sans crainte, sans peur. Et ça, les Américains n'ont pas eu ce luxe sous le mandat Trump, du début jusqu'à sa fin. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cette chanson. Une chanson du groupe de Seattle, Taco Cat, mon groupe favori avec Chastity Belt. Une chanson qui se nomme New World, et qui fut écrite en 2017, quand Donald Trump fut élu à la tête de ce pays. Une chanson évoquant le fait que, oui, les années à venir sont sombres, mais que les suivantes ne pourront qu'être mieux. Que les suivantes ne seront celles d'un nouveau monde au final, un monde qui brillera de mille feux, et qui ne pourra, ainsi, que permettre le mieux pour les citoyens américains. Et honnêtement, c'est tout ce que je souhaite aux États-Unis. Tout de suite, New World, par Taco Cat.
reconnaître que j'étais assez perdue quand ce thème m'a été proposé. Pour la faire courte, j'ai l'impression d'être constamment en lutte à cause d'un certain nombre de conditions sociales qui se cumulent. Et en même temps, j'ai l'impression de jamais en faire assez, j'ai l'impression de jamais être à la hauteur des combats qui se présentent à moi, et aussi des combats que je pourrais entreprendre, en fait. Du coup, je vois des morceaux qui parlent explicitement de galères économiques, ou de répression sexuelle, ou de santé mentale, et de l'impression d'avoir à lutter contre soi-même, mais j'en voyais aucun à la base qui réunisse ces deux facettes, qui parlent à la fois du fait que la lutte, pour moi en tout cas, elle est multiple, elle est intégrale, et en même temps que je ne suffis pas à la lutte. Et puis, je suis retombée sur History Lesson de Nicolas Jaar. C'est un morceau un peu particulier qui se situe à la fin de son deuxième album solo. Et l'album est assez politique, en tout cas autant qu'un album de musique électronique puisse être, je pense. Et du coup, on arrive à la fin de cet album et il y a cette ballade assez absurde avec des paroles et des arrangements vraiment limpides et concis par rapport à ce qui a précédé. Et le morceau commence comme une balade de prom en fait, de bal étudiant, avec des chœurs assez naïfs, et puis Nicolas Jaar chante avec une espèce de voix de playboy très légèrement manipulée. C'est assez étrange, et au niveau des textes aussi, il y a une certaine ambivalence entre l'espèce de contentement qui est exprimé assez malsain en fait dans la relation à l'histoire et au fait d'avoir triomphé sans forcément avoir le dessus moral, loin de là. Et en même temps, le fait de reconnaître certaines responsabilités, il y a un côté un peu fantasmé dans le fait que les dominants puissent reconnaître leurs erreurs. Et puis, on pourrait aussi parler du fait que c'est peut-être un morceau qui parle du fait qu'on n'est pas complètement indépendant des systèmes d'oppression contre lesquels on s'élève. Et bref, tout ça fait que il y a un côté très acide à ce morceau, une certaine ironie qui permet au morceau d'être abordé plutôt facilement, je pense. Il surprend et on se glisse dedans. Et puis, en même temps, le morceau est plutôt... Il a un côté comique, mais il est assez lourd. Il est assez lourd et il y a la chute qui arrive un peu plus tard, la chute qui vient réfuter la première partie. C'est une conclusion instrumentale qui est assez éraillée aussi et puis qui est très très mouvante, très instable par rapport à la première partie du morceau et qui en tout cas moi me fait espérer que l'histoire peut être réécrite, qu'on peut se réapproprier l'histoire et les luttes. You
Cette semaine, c'était le 8 mars. Et c'était vraiment chouette de pouvoir chanter dans la rue, comme ça. Tous ensemble, enfin tout ensemble. Et je pense que c'est du coup une bonne manière de lancer ce petit monologue sur la lutte et les luttes. Quand on est en manif comme ça avec des gens qui chantent autour de vous, on se rend bien compte, ou quand on danse sur de la musique en manif, parce qu'on dansait aussi beaucoup, on se rend bien compte que ouais, la musique ça rassemble et que c'est important d'être rassemblé dans une lutte. Mais c'est un peu quelque part aussi une vision naïve, parce qu'elle rassemble finalement que ceux qui se ressemblent déjà. Mais par contre, entre ceux-là, elle permet vraiment une communion, quoi, presque une communion spirituelle qui renforce et qui nourrit. Enfin, je pense que quand on sort de manif comme ça, où on a chanté au milieu de centaines, voire de milliers de personnes, pour ceux qui sont dans les grandes villes, c'est hyper nourrissant, quoi. Et c'est vrai que la musique, elle a toujours fait partie des luttes, quoi. Y a tout un arsenal de chansons qui respire l'histoire des luttes. Je pense par exemple à la Lega Crescera, qui est juste, dès que je l'entends, ça me met en joie, quoi.
Se vendiamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se vendiamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in Lega ci mettiamo.
La libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, crumiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, son tutti da ammazzare.
Oh, lì, lì, là, e la Lega crescerà. E noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oh, lì, lì, là. Crescerà e noi altri socialisti vogliamo la libertà.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo.
Oh, oh, io, io, là, e la Lega crescerà.
C'est vrai que ces chansons-là en elles-mêmes, elles font rien, elles n'ont pas de possibilité directe de changer le monde. D'ailleurs, on voit bien que quand on regarde Les Enfoirés et la machine à sous que ça représente, on voit bien que c'est pas forcément non plus l'idée. Mais j'ai l'impression que même si la musique elle sert à rien, de façon utilitariste, elle sert à rien dans la lutte, elle peut quand même avoir des effets. Elle peut transcrire des émotions qui, elles, vont nourrir le sentiment de révolte, le sentiment de courage, enfin, tous ces sentiments qui sont nécessaires à la continuité de la lutte.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white spoke from my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy to memorizing politics of ancient history. Flung down by corpse evangelists, unthought of though somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. A self-ordained professor's tongue, too serious to fool, spouted out that liberty is just equality in school. Equality, I spoke the word as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach, fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Yes, my guard stood hard when abstract threats, too noble to neglect, deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Voilà, c'était un petit Bob Dylan. Je suis désolée pour les oreilles de ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre sa voix. Mais en fait, cette chanson, elle m'a beaucoup accompagnée. Et elle parle justement des travers et des écueils moraux et éthiques qu'il peut y avoir dans la lutte. C'est un peu l'équivalent américain de mourir pour des idées, quoi. Il y a vraiment toute une réflexion et plein de petites vignettes de situations qui arrivent souvent dans un parcours militant. Et voilà, des erreurs, des écueils, ouais, je ne saurais pas le dire autrement, qui nous guettent un peu tous quand on commence à croire qu'on a trouvé la vérité et que la lutte, justement, commence à prendre une place un peu prépondérante et qui vient phagocyter tout le reste, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans la musique, c'est qu'autant elle accompagne les luttes, mais elle permet aussi de les faire évoluer. Et je pense que c'est parce que fondamentalement, la musique, elle nous parle vraiment depuis l'intérieur. En fait, je pense qu'à la source de la lutte, il y a souvent, je vais pas dire toujours parce qu'après ça fait dogmatique, mais bon, en gros, à la source des luttes, il y a souvent de l'injustice, et l'injustice, au final, c'est, peut-être d'abord un sentiment, c'est d'abord quelque chose qu'on ressent profondément dans nos tripes. L'injustice, ça nous parle d'instinct presque. Et c'est pour ça que c'est vachement lié à la musique, parce que la musique aussi, elle parle à nos tripes.
Si on t'organise une vie bien dirigée, tu t'oublieras vite. Si on te fait lancer sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que ta vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Non! Si tu réalises que ta vie n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur.
Comme c'est un jour de générosité, mais aussi d'une impossibilité totale pour Marion de choisir une musique unique, eh bien, voici un petit supplément. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier par les Têtes Raides. Et avant de vous faire profiter de ce morceau bonus, eh bien, moi, je vous invite à partager cet épisode autour de vous et aussi à faire savoir aux proches à qui vous le ferez écouter que bah, y a toujours moyen de participer si ça vous dit. Que c'est vraiment pas nécessaire de s'y connaître en musique, faut juste vouloir partager un peu de soi et un peu de ce qu'on écoute. Bonne journée à vous et profitez du son.
Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras ? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux, puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander, puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté, puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique, puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise. De l'autre, par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « perds confiance », car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits, la fausse consolation me crie « espère », car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours. Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mots d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux, par exemple, marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses! Thank you. Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité, si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau, étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre. Je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurais pas, confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote: vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois. Mais qu'est-ce que ce bon conseil, si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage, et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vrais qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle. Celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, Je suis tellement esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir. Mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu. La capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même enseveli sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe. Et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle ? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit dénoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité ? Ma vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps, car peu importe que je rencontre la beauté, l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps, et par la même occasion celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance.
ce qui est parfait, œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons, et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser, je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours. Une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden, mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société? À l'intérieur de ses formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté, c'est considérable, car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance, et mon pouvoir est redoutable, tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité. Car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes. Mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie. C'est-à-dire une raison de vivre.